Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le thème qu'on aurait dû aborder, qu'on va aborder, on va essayer de faire rapidement maintenant, c'est les instruments à percussion. On a ça, quelle est la formulation exacte? Les instruments à percussion, quand et comment les utiliser, c'est ça, hein? Et puis, il y avait une deuxième question. Quels instruments pour quel type d'événement? Je crois que c'est ça. Hein? Oui. Et
comment s'exercer
avant le culte? Très rapidement, je vais commencer par la dernière question, puisque Roland a déjà bien dégrossi ce sujet. La préparation avant le culte se fait d'abord dans la prière. Et je vous recommande très chaleureusement la lecture dans notre recueil en bois, le préambule, les instructions que l'on donne aux musiciens. Il faut que ce soit une règle immuable pour les musiciens. On l'a un peu enlevé dans les tunes récents, ces instructions qui datent de 1977, mais... Nous, on a choisi de le conserver dans notre transcription en solfège parce que c'est vraiment la clé de la préparation. Vous savez que la musique, il y a quelque chose qui... C'est quelque chose qui parle directement à l'âme. Ce n'est pas que la technique. Et il y a quelque chose de presque surnaturel qui se passe avec la musique. Alors, si on est mal préparé spirituellement... L'exécution s'en trouve faussée et l'exécution peut même s'en trouver polluée justement parce qu'on est mal préparé. Alors la préparation se fait dès le samedi. Hein, dans ces petites instructions, vous voyez, on se prépare le samedi de la même manière que le pasteur se prépare puisque le musicien, lui, il ne peut pas prier. Pendant que les autres prient, le musicien, il cherche ses cantiques, il choisit ses registrations. Il ne prie pas. Le seul moment où il participe au culte, en tant que, comme tout le monde, c'est la prédication. Le reste du temps, il est attentif au déroulement de la liturgie. Donc, lui, sa préparation, c'est en même temps que le pasteur, le samedi, il se procure les cantiques à l'avance, il chante en jouant. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous nous entraînions à faire, chanter les cantiques pendant que nous les jouons, pour pouvoir d'abord choisir la bonne registration, pour pouvoir s'imprégner des morceaux et pouvoir les chanter, les jouer au bon tempo pour ne pas essouffler inutilement l'assemblée. D'accord ? Donc, je ne vais pas plus m'étendre que ça là-dessus, mais plutôt sur la question des instruments et la question plus particulière des instruments à percussion et encore plus particulièrement l'usage de la batterie ou des percus du genre les djembés, etc. Dans notre musique. Bon, bibliquement, qu'est-ce que dit la Bible sur le type d'instrument que l'on joue pendant le culte? Il y a des mentions très explicites depuis, avant même la création du monde. Hein. Dans le livre de Job, on voit que avant même que l'homme ne fût créé, il y avait déjà de la musique dans la création de Dieu. Hein. Dieu demande à Job, « Où étais-tu, toi, quand j'ai formé la terre, quand les étoiles... » Qu'est-ce qu'il dit ? Quand les étoiles du matin chantaient un chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Hein, c'était avant la création de l'homme. Il semble que la musique existait déjà. Et le prophète Ézéchiel dit « Tes tambourins et tes flûtes étaient déjà à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Hein, » en faisant une prophétie sur Jésus lui-même. Donc, c'est quelque chose qui a déjà existé de l'éternité moins l'infini, et dans la Bible, on voit que c'est quelque chose qui se poursuit jusqu'à l'éternité, puisque dans le livre de l'Apocalypse, on voit qu'il y a des myriades d'anges, des myriades de musiciens qui jouent essentiellement de la harpe, qui chantent ce qu'on appelle un cantique nouveau, le cantique nouveau qui dit « Tu es digne de, d'ouvrir le sceau, d'ouvrir le sceau et d'ouvrir le livre et d'en délier le sceau, car tu as été immolé. » Vous voyez ce cantique de l'agneau, le cantique, le merveilleux cantique que nous aurons tous la joie un jour d'entendre. Donc, à l'éternité, à plus l'infini, il y aura beaucoup d'anges qui jouent de la harpe également. On voit ça dans Apocalypse 14, les versets 2 et 3. J'entendis du ciel comme une voix, un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe qui jouaient de leur harpe, et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'était les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Donc, dans la perspective de la vie éternelle, il y a des harpes. Dans la perspective de la vie éternelle, on parle aussi de trompettes. Vous voyez, quand à chaque fois que la vie du peuple d'Israël connaît un changement, c'est ponctué par le jeu des trompettes. Et dans toute la vie du peuple d'Israël, le ministère prophétique, le ministère, le culte lui-même, sur ordre direct de Dieu, était ponctué par le jeu de trompette ou de flûte. On a un exemple très explicite dans Nombre 10, le verset 10, où Dieu prescrit ceci: dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà un ordre qui ne souffre pas de discussion. Et donc, dès la création jusqu'à la fin des temps, les premiers instruments de musique dont on parle dans la Bible, par contre, il semble qu'elles soient apparues après la chute, les mentions vraiment explicites. On voit que les premiers musiciens humains étaient les fils d'un certain Yubal, un descendant de Caïn. Donc, Caïn, on sait que c'est le premier meurtrier de l'histoire qui a dû fuir dans une ville lointaine. Et dans cette ville lointaine, il a fondé une civilisation. Et parmi ses descendants, il y avait les premiers forgerons et les premiers musiciens. On voit ça dans le chapitre 4 de la Genèse, les versets 20 à 22. Et donc, la mention qui est faite ici, c'est Yubal qui est le père des gens qui jouent de la harpe, de la flûte ou du chalumeau. On dit flûte ou chalumeau selon les traductions. Donc, toute la vie de l'Église, du peuple d'Israël en tout cas, était ponctuée par des jeux d'instruments de musique. Beaucoup de trompettes, donc beaucoup d'instruments avant, notamment lorsqu'il s'agit d'aller au combat. Quand il y a des combats à affronter, il y a un jeu de trompettes qui est joué par les Lévites. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans le livre des Chroniques où on voit la première fois que l'orchestre est institutionnalisé dans l'Église. Je crois que c'est David Brown qui en a parlé ce matin. l'orchestre était institutionnalisé, il y avait 4000 lévites réservés à l'exécution musicale et au chant et à la musique. Et c'était des gens qui étaient formés pendant au minimum 10 ans, donc de 20 à 30 ans, avant de pouvoir exercer ce ministère. Ils y mettaient un peu le budget à l'époque. Hein. C'est pas comme aujourd'hui, on essaie de trouver un budget pour s'acheter un pauvre synthétiseur, machin. 4000 lévites professionnalisés et qui ont 10 ans de formation. C'est pas une affaire d'amateur. C'est pas non plus une affaire de professionnel. C'est surtout une affaire de lévite, c'est-à-dire c'est une affaire sacerdotale, c'est une affaire de sacrificateur. Hein? Ces lévites étaient tous des sacrificateurs, c'est-à-dire des pasteurs, donc qui ont une fonction spirituelle bien spéciale en exécutant leur service musical. Et ils jouaient de la harpe, ils jouaient du chalumeau, des instruments à cordes, du tambourin, hein, les psaumes mentionnent des tambourins, mentionnent des cymbales. Hein, tambourin. Et là, on touche à la question de l'instrument à percussion, notamment à la place de cela dans notre culte et dans notre vie d'église en général. Alors, quand on dit quelle est la place des instruments à percussion, la Bible n'est pas super explicite du coup. Hein? Et là, on va souffrir des différences d'interprétation de chacun. Si on regarde un peu, si on va dans une église luthéro-réformée en France, les instruments à percussion n'ont pas tellement leur place ou n'ont pas du tout leur place. Si on va dans une église baptiste, évangélique ou pentecôtiste, les instruments à percussion ont toute leur place dans le culte. Et dans les églises malgaches, là, la question qui se pose, c'est qui est-ce que ça va se poser en ces termes? Est-ce que moi, je suis d'accord pour qu'il y ait de la batterie pendant le culte, ou est-ce que moi, je suis contre? Un élément de réponse là-dessus, qu'est-ce qui fait qu'un instrument a une place certaine dans le culte? Certaine, je veux dire, par là, sans ambiguïté, on peut affirmer cet instrument-là, il a toute sa place dans le culte. Toujours dans le livre des Chroniques, 1 Chronique 16, verset 42, 2 Chronique 7, verset 6, et puis des contre-exemples. Le contre-exemple, c'est dans Amos 6, verset 5. Je ne vais pas tous les citer. Mais les caractéristiques des instruments qu'on joue dans ces passages-là, ce sont des instruments qui ont été construits, faits spécialement pour l'exercice du culte. On a fabriqué l'instrument pour qu'il serve dans le temple, dans le tabernacle, et jamais, jamais, au grand jamais, nulle part ailleurs. De la même manière que les lévites, les sacrificateurs, étaient réservés au service du temple et absolument rien d'autre. Ils ne devaient pas aller travailler dans les champs, ils ne devaient pas aller élever des zébus ou des moutons, ils étaient uniquement consacrés au service de Dieu dans le temple. Donc, un instrument que l'on fabrique uniquement à cette destination-là, on peut affirmer sans aucun doute, sans aucune ambiguïté, que c'est un instrument qui a toute sa place. C'est peut-être une des raisons qui fait que dans les églises protestantes historiques, l'orgue l'orgue actuel, l'orgue, les grandes orgues ont une place privilégiée parce que c'est un instrument qui est fait pour. Et il reste à l'église 100% du temps, peut-être même sauf le temps de faire une petite restauration parce que le système de soufflerie est un peu essoufflé ou quelque chose comme ça. Mais voilà un instrument fait pour l'église, pour le culte, qui reste dans le lieu de culte 100% de son temps. Posons-nous la question sur sur le caractère dédié de nos guitares basses, de nos batteries, de nos synthétiseurs, etc. Une fois qu'on les ramène à la maison, qu'est-ce que l'on joue dessus? Ce qui n'est pas un péché. On a le droit de se divertir. Hein. Moi-même, je joue un peu des chansons d'amour, hein. Surtout pour essayer d'apaiser ma femme quand elle est en colère. Bon, lorsqu'on est chez soi, on est libre de jouer ce que l'on veut. Mais si, par exemple, j'emmène un instrument de l'église chez moi, bibliquement parlant, je n'ai aucun droit de jouer autre chose dessus que des chants sacrés, que de la musique sacrée. Parce que ça a été fait pour, et ce serait un grand sacrilège. Ça serait comme si un pasteur qui est réservé au service du temple, finalement, au lieu de s'occuper de ce service, eh ben, ils doivent aller faire son job comme tout le monde, ils doivent aller faire des livraisons, ils doivent aller faire de l'informatique, etc. Parenthèse que je ferme tout de suite, mais devant Dieu, c'est un grand sacrilège que nous faisons en ne salariant pas nos pasteurs. Je ferme ma parenthèse. Donc, l'orgue liturgique, c'est quelque chose qui est dédié. Il a toute sa place. Je dirais que nous, dans notre culture et dans notre hymnologie malgache, Roland l'a dit tout à l'heure, on a toujours été influencé. On a une influence anglo-saxonne très très forte. Et notre hymnologie, notre expression de la foi est devenue pratiquement un mariage entre l'hymnologie britannique et anglo-saxonne et notre sensibilité malgache et qui s'exprime par les spécificités de nos cantiques, et ce sont des spécificités qui ne donnent pas, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, de place pour les instruments à percussion. Voyons un petit exemple, le chant 417, qui est un cantique de repentance. D'accord. Comment est-ce que vous pensez accompagner ce truc-là à la batterie? Hein? C'est un chant binaire. Allez, non, un peu de technique, ça c'est du binaire. Donc, quel type de rythme? Hein? Un chant binaire, c'est ni plus ni moins que du rock'n'roll. Un cantique de repentance. C'est complètement inadapté, évidemment. Et non seulement ce que l'on constate dans nos églises, quelquefois, c'est que non seulement c'est inadapté, et en plus, ça n'a pas été répété. Il n'y a même pas la qualité qui va avec. Je dis, tout à l'heure, la préparation se fait le samedi. Et si on joue en orchestre, c'est d'autant plus important. S'il n'y a que l'organiste, c'est encore jouable. Mais quand on joue en orchestre, sans répétition, n'essayez même pas. C'est une vraie catastrophe. Donc, ça, il faudrait, si on voulait accompagner ça par des instruments plus rythmiques, revoir de fond en comble les arrangements pour que ça puisse coller dans une ambiance, dans un contexte liturgique. Les églises baptistes des États-Unis, hein, les Noirs américains ont très bien compris. Un Africain, donc les Africains américains qui ont été exportés aux États-Unis, ben, ils avaient leur propre musique influencée par la musique un peu comme nous, hein, anglo-saxonne, parce que ils se sont convertis à la foi chrétienne, mais on sait comment sont nés les Negro Spirituals et la musique gospel. C'est quelque chose où ils ont réarrangé complètement des chants binaires pour que ça puisse coller dans un contexte liturgique. Ils les transforment parfois en ternaire. Et là, peut-être que ça peut coller. En tout cas, pour les églises baptistes noires américaines, ça colle parfaitement. Et loin, il serait très malvenu de ma part de dire, de démettre un jugement sur la musique avec ces chorales gospel que nous voyons dans ces églises-là. C'est quelque chose d'absolument merveilleux parce que c'est leur culture, c'est la façon dont eux ont reçu la foi et la façon dont eux la vivent. L'hymnologie malgache est complètement différente de cela. Et quand on essaye de faire avec notre expression de la foi quelque chose qui imite l'expression de la foi faite par les autres, c'est là que finalement l'ennemi ne tarde pas à mettre le bout de son nez. Hein? Et c'est souvent assez cacophonique. Et c'est un peu le problème des instruments à percussion, c'est qu'ils ont le défaut de sonner beaucoup plus fort que tout le reste sans avoir besoin d'amplification. Hein? Un batteur sans amplification, même un instrument piano comme ceci, hein, qui finalement sonne déjà pas mal, mais mettez une batterie à côté, on n'entend plus rien. Et finalement, on met en avant le musicien plus que la musique, et surtout on met en avant la musique plus que le créateur lui-même, et ce sont des cibles faciles pour l'ennemi pour nous infiltrer. Je dis cible facile parce que la musique, on dit, c'est quelque chose, c'est un langage qui parle directement à l'âme sans passer par le filtre rationnel de la raison. Ça s'adresse, ça titille directement notre sens esthétique et notre goût du beau. Et du coup, ça outrepasse complètement le filtre de la raison et de l'analyse. Et quel que soit le message que l'on veuille faire passer, une fois que l'on a outrepassé le filtre de la raison, en fait, on peut faire passer n'importe quoi dedans. Donc il y a une séduction à laquelle il faut vraiment que l'on fasse attention. Et c'est une autre caractéristique des instruments à percussion, avec les rythmes très répétitifs, c'est d'entraîner dans un état de transe. Les Africains ne peuvent pas avoir de culte sans danser. Un malgache, et moi j'en ai vu beaucoup, moi, je viens de la province nord de Madagascar. On voit beaucoup, souvent, lorsque on fait certains firamafanam avec un rythme un peu salé, ce sont les tons qui se réveillent à la place de l'esprit de louange. Ça suscite plutôt vraiment ce qu'il y a de plus païen dans l'homme, et on a des manifestations de transe, de tons qui se réveille dès que la musique commence un petit peu à bouger. Et peut-être plus proche de nous, lorsqu'on constate quelquefois nos chorales, quand la musique est peut-être un petit peu commence à être un petit peu chaloupée, avec des rythmes un peu tropicaux. C'est au niveau des hanches qu'il y a un petit déhanché dont les suggestions ne laissent transparaître, ne laissent, je dirais, aucun doute. Hein? Si justement ça laisse un grand doute. Hein? L'incitation à la danse dans certains types de rythmes n'est pas saine et n'est pas sainte. Alors voilà, ce qui est important dans notre choix d'instrument, c'est que devant le Saint-Esprit à Bible ouverte, on examine exactement. Est-ce que moi-même, je suis consacré à Dieu en tant que musicien? Est-ce que l'instrument que je joue est consacré à Dieu? Est-ce qu'il a sa place dans le culte? Hein? Un instrument qui aurait fait le samedi soir, aurait servi à la soirée telle ou telle pour faire un bal, et que je le ramène à l'église le lendemain, est-ce que c'est vraiment saint? Et est-ce que c'est vraiment sain en rajoutant un T à la fin? Moi-même, en tant que musicien, j'ai passé mon samedi soir en boîte de nuit à faire danser les gens. Je me pointe le dimanche matin, peut-être en ayant bu encore un coup de trop ou je ne sais pas quoi. Est-ce que je dois officier, oui ou non? Je vous laisse peut-être voir ça dans l'introduction de notre cantique en bois, mais c'est surtout comme sous cet angle qu'il faut analyser la place des instruments que nous mettons dans notre culte, et peut-être que la réponse sera plus évidente pour nous. Je vous remercie.